Bienvenue à la série de podcasts « Parlons-en » de l'Institut de Haute Études Internationales et du Développement. Je m'appelle Lena Mengue et suis coordinatrice de projet à l'IHEID. Cette série de podcasts convie des experts et intellectuels de renom à traiter des grands enjeux internationaux du moment avec des membres de notre faculté. Enrico Letta, doyen de l'École des affaires internationales de Sciences Po Paris, ancien Premier ministre italien, et Cédric Dupont, professeur en relations internationales et sciences politiques, président de la formation continue à l'IHEID, discute des enjeux économiques et institutionnels de la crise sanitaire actuelle au sein de l'Union européenne. Selon Enrico Letta, l'Europe s'est montrée plus forte et solidaire face aux nouveaux défis posés, mais jouera son futur dans les prochains mois lors de l'application des mesures annoncées.
Cette crise n'a pas de parallèle possible parce que c'est une crise unique. On n'a jamais rien vu de pareil en termes de dimension, en termes de quantité de chute de richesses et quantité de dégâts économiques. On n'a jamais vu rien de pareil en termes de rupture sociétale et de problèmes de santé, de welfare. On n'a jamais vu rien de pareil en termes de chiffres de décès dans beaucoup de pays. On n'a jamais vu rien de pareil en termes de asymétrie dans laquelle différents pays en différents temps ont été touchés, cette nécessité de lockdown et naturellement les conséquences économiques. Mais en Europe, à la fin, on a un seul parallèle possible qui est celui avec la crise de 2008. C'est un parallèle complexe à faire parce que la crise de 2008 n'avait naturellement pas les éléments que je viens de citer. Mais c'est un parallèle intéressant pour ce qui concerne la réaction des institutions européennes. Donc je vais le faire en sachant que s'agit de deux moments et deux situations très différentes. Mais c'est un parallèle faisable surtout à cause de comment l'euro qui venait d'être construit en 2008 et qui naturellement, on sait tous, était une construction très asymétrique. Il manquait toute une série d'autres instruments capables de gérer des problèmes de crise, de choc asymétrique comme ce qu'on a vécu en 2008 et qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais alors, quel est le parallèle qu'on peut faire? Eh bien, le parallèle est un parallèle sur lequel il y a des pistes qui nous disent que le changement a été très important cette fois. Une première piste est liée au fait que le timing de la réaction était totalement différent. En 2008, le début de la crise, on part toujours le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, et à la fin, on peut dire que le changement commence le 26 juillet 2012, le fameux discours de Mario Draghi, président de la Banque Centrale Européenne, à Londres, le « whatever it takes ». Et 2012, c'est l'année aussi de l'institution du ISM, du MES. C'est l'autre chapitre du changement. Quatre années qui se sont écoulées dès le début au moment des solutions. Dans ces 4 années, le désastre économique. Cette fois-ci, ça a été 4 mois du début de la crise au moment où les institutions européennes ont répondu avec le recovery plan et avec tout ce qui est en train de se discuter, de se décider. L'autre aspect est lié à la substance. La réaction de 2008-2012 a été une réaction surtout de nature financière, liée aux instruments de la Banque Centrale Européenne et aux instruments financiers du ISM. Cette fois-ci, la réaction est une réaction qui touche les 3 domaines. Le domaine financier, toujours avec la politique monétaire de la banque, les aspects d'économie réelle, le recovery plan et les prêts de la BEI qui touchent l'économie réelle et qui sont une façon de contrer la récession, et l'Europe sociale. On parle du plan SURE, on parle du MES pour la santé, et même les instruments du Recovery Plan avec ce principe de solidarité, c'est des instruments qui sont assez ancrés à l'idée d'une Europe sociale. Donc, voilà, je pense qu'il y a là un deuxième aspect de grand changement très important, la qualité de la réponse et le fait que la réponse n'est pas laissée seulement aux États membres. Alors qu'il y a 10 ans, la théorie qui avait gagné en Europe était celle de dire l'Europe s'occupe de la stabilité financière de l'ensemble, puis les problèmes des États membres, c'est à chaque État de les résoudre, ce qui avait été un grand problème, parce qu'à la fin, la situation d'intégration de la zone euro était déjà très importante. Elle est encore plus importante aujourd'hui, c'est pour cela que cette réaction aujourd'hui, une réaction beaucoup plus efficace et qui tient ensemble ces aspects. Je pense que ça va changer pour le futur aussi. Le timing et la qualité de cette réponse, et naturellement aussi la dimension, parce qu'on parle de chiffres qu'on n'avait jamais vus auparavant, parce qu'auparavant, quand on parlait de chiffres pareils, il y avait toujours un effet levier qui faisait multiplier les chiffres et qui rendait aussi un peu moins crédible dans la relation avec l'opinion publique. Cette fois-ci, on parle de grands chiffres, dimensions, sans effet levier, ce qui, naturellement, est beaucoup plus important.
C'est une comparaison très intéressante et qui montre effectivement les contrastes entre ce qui s'est passé en 2008 à 2012 et qui d'une certaine manière est toujours en cours sur certains aspects et ce qui s'est passé depuis le début de 2020. J'aimerais revenir aussi sur une des différences qui peut peut-être expliquer ou qui peut mettre en lumière les différences au niveau européen, c'est que autant en 2008-2009, l'action était plutôt en dehors de l'Europe. Donc, évidemment, l'Europe a mis 4 ans pour vraiment réagir aux aspects financiers. Mais il y avait, par contre, en contraste, une réaction rapide et très forte qui s'est déclarée au niveau international, notamment grâce à la création ou, en fait, la mise à niveau, si je pourrais dire, du G20, d'une enceinte où les ministres des Finances rencontrés à une enceinte où les chefs d'État se rencontrent et avec une action très forte qui a été faite très rapidement et une concertation des principales banques centrales, dont la BCE. Et en contraste, à l'échelle européenne, pas grand-chose qui se faisait, comme vous l'avez mentionné. En l'occurrence, en 2020, c'est un peu l'opposé, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, certes, il y a eu l'action de l'OMS, mais qui est restée sans commune mesure avec l'action du G20 lors de 2008-2009, qui lançait des appels qui étaient parfois écoutés, parfois pas écoutés, et l'action qui s'est en fait cristallisée beaucoup plus à niveau régional ou local ou national, et dans le cas de l'Europe, donc l'action a été vraiment européenne, comme vous l'avez montré. C'est intéressant que le contraste, alors est-ce que ça peut expliquer pourquoi il y a une lenteur au niveau européen à l'époque, en 2008-2009, et pourquoi il y a eu beaucoup plus de rapidité à l'heure actuelle, ou c'est simplement aussi la nature des crises qui faisait ça. Alors, c'est intéressant de voir à quel point l'Europe était plutôt en retard ou a beaucoup laissé faire, d'une certaine manière, en 2008-2009, et l'action se situait au niveau mondial, alors qu'à l'heure actuelle, l'action se situe vraiment au niveau de l'échelle européenne et pas vraiment au niveau mondial, ce que certains regrettent. Mais c'est-à-dire, le contraste est aussi intéressant et donc le parallèle est aussi intéressant à cet égard-là. Il est clair que si on devait faire une analyse de pourquoi nous avons ces contrastes, il faudrait évidemment mettre en parallèle la nature du problème auquel on fait face. Donc évidemment, en 2008-2009, le choc, vous parliez d'asymétrie, donc était beaucoup plus asymétrique au niveau européen, avec certains pays qui étaient dans une situation beaucoup plus délicate, et comme les années vont le montrer, de 2008 à 2012, de plus en plus délicate, et d'autres pays qui finalement s'en sortaient pas comme si de rien n'était, mais beaucoup plus facilement, alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde était à peu près dans le même panier, avec évidemment des variations, parce que certains ont été contaminés et ont souffert de la maladie, de la propagation de la maladie plus rapidement et de manière plus profonde que d'autres, mais avec une tentation, enfin un élan de solidarité qui était plus facile à faire puisque tout le monde finalement a ressenti le problème beaucoup plus précisément, beaucoup plus, je dirais, de manière plus intime que ça pouvait être le cas en 2008-2009. Mon point, c'est vraiment de vraiment mettre encore en lumière le contraste que vous venez de faire en ajoutant l'échelle globale et qui ne fait que renforcer cette image assez forte que vous avez esquissée de différence de qualité, de timing et de substance entre les réactions de la crise de 2008-2009 et celle toujours en cours en 2020.
J'aime beaucoup le passage que vous faites, Cédric Dupont, sur la question de l'échelle mondiale. Je l'aime beaucoup parce qu'en effet, si je dois tenter de donner des clés de lecture pour comprendre ce qui est en train de se passer au niveau européen, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'il y a 10 ans, l'Europe est intervenue et à l'intérieur de l'Europe, des pays ont changé d'approche, et surtout l'Allemagne a donné le feu vert à des opérations en 2012 qu'elle avait contrastées, elle niait auparavant, en 9, 10, 11, aussi à cause de la grande pression globale, de la pression américaine au niveau du G7, mais surtout, vous avez bien fait à citer la naissance du G20 qui a joué un rôle très important à l'époque. Ça a été un des changements importants de la, des affaires internationales de l'époque. Cette fois-ci, il n'y a eu rien de pareil. C'est-à-dire, l'Europe a dû trouver les forces et l'énergie à son intérieur, sans avoir la possibilité nulle part de trouver de l'énergie de l'extérieur. On doit même voir, comprendre, mettre ensemble dans tout ça le fait que la situation géopolitique mondiale aujourd'hui est une situation de multilatéralisme décroissant, en faiblesse, et tout ça naturellement joue un rôle très important. Donc l'Europe qui doit trouver à son intérieur les forces, et en fait elle trouve les forces aussi d'une blessure, d'une rupture qui a joué un rôle très important dans les trois années de 16 à 19. Je parle du Brexit, qui a été un élément négatif dans la vie européenne. On a beaucoup parlé du Brexit comme un moment dans lequel l'Europe peut se raconter au monde comme un continent faiblissant, un continent en difficulté, et des institutions de Bruxelles plus faibles à cause de la sortie du Royaume-Uni. En vérité, on voit la réponse européenne sur ses côtés sociaux et d'économie réelle possible aujourd'hui à cause de la sortie du Royaume-Uni, qui aujourd'hui n'a pas pu jouer son rôle de veto, qui avait été même dans la crise précédente. Rappelons-nous le fait que l'ISM, les grands traités européens de la période 11-12, sont des traités qui ont vu la lumière avec un opting out, pas un opting out techniquement, mais avec le Royaume-Uni, dans ce cas-là, accompagné par la République tchèque, qui était hors de ce périmètre d'accord. Donc le veto du Royaume-Uni, dans le cadre de l'Europe sociale, qui a été très important jusqu'à maintenant, la sortie, et donc la possibilité d'aller dans cette direction. Alors ça, c'est une clé de lecture, de mon point de vue, très importante pour comprendre ce qui vient de se passer. Une autre clé de lecture est liée au changement géopolitique et au rôle de l'Allemagne, qui a pris conscience de son rôle et du fait que dans une crise pareille, il n'y a pas un pays qui peut profiter des crises des autres. Cette approche avait existé il y a 10 ans. Aujourd'hui, cette approche, elle est clairement une approche totalement aveugle. Et donc, on a vu l'Allemagne jouer un rôle qui a été un rôle plutôt positif de leader et de pays qui se charge sur les épaules aussi les problèmes des autres. Et le fait que la présidente de la Commission européenne soit allemande, qu'aujourd'hui le semestre de présidence européenne soit allemand, naturellement a aidé dans tout ça. Mais ça, c'est le deuxième grand changement géopolitique qui a eu lieu. Et tout ça nous amène à la clé de lecture liée à la substance de ce qui a été décidé, ce qui va être approuvé et appliqué, on espère, le plus tôt que possible. C'est-à-dire cette idée de mutualisation de la dette future. Parce que le bond que la Commission va émettre, avec lequel on va financer les interventions pour contrer la crise, c'est en fait une mutualisation de dettes futures. C'est quelque chose de totalement nouveau en termes de narratif, mais aussi en termes de substance, si on regarde, le parallèle avec des petites choses du passé. Et je pense que c'est un aspect très important parce que ça donne la possibilité d'émettre ce bond avec la réputation à triple A de la Commission et des institutions européennes en tant que telles. Et comme ça, ça aide beaucoup les pays qui n'ont pas de triple A et qui n'ont même pas de, d'une seule A, mais qui ont des triples B ou quelque chose comme ça. Donc ça aide beaucoup et ça donne une force générale, ça donne vraiment l'idée d'une solidarité complexive. Et la deuxième, là, l'autre aspect de cette clé de lecture sur la substance de ce qu'on fait, c'est le fait que la répartition de cet argent est une répartition qui est faite avec ceux qui ont besoin en premier, et non pas avec une liste de hiérarchie basée sur la dimension des pays. Je pense que c'est un autre aspect très important, parce que là, c'est vraiment le cœur de la solidarité. Ce qui a manqué dans les précédentes crises, la crise de 2008-2012, mais aussi la crise de l'accueil des réfugiés en 2014-15, qui a vu l'Allemagne et surtout l'Italie, la Grèce, en grande difficulté pour le manque de solidarité générale. Je pense que là, ces clés de lecture peuvent nous faire comprendre la dimension, l'importance, la rupture vers une Europe qui soit aujourd'hui plus forte, plus solidaire, plus capable de gérer des crises importantes comme celle qu'on est en train de vivre.
J'abonde absolument dans votre direction, monsieur l'État. J'allais justement ajouter, parce que la crise migratoire, vous parliez de blessures avec le Brexit. Je pense que on peut aussi parler de blessures, évidemment, sur la crise migratoire, parce qu'elle dure depuis 2015. Et même encore juste avant l'avènement du Covid-19, c'est vrai que les États qui n'étaient pas soit géographiquement contingents ou contigus aux pays qui en fait d'où venaient les migrants, donc essentiellement les pays du sud de l'Union, ou l'Allemagne pendant une période donc un peu plus ancienne sous l'initiative de Madame Merkel, avait peu fait preuve de solidarité. Je veux dire que même le mot était faible, était même très très égoïste, et c'était une blessure quand même très profonde, puisque le cœur de l'Europe, ou une des raisons d'être de l'Europe, c'est cette solidarité qui est d'ailleurs dans tous les textes, qu'elle était dans le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui était essentiellement en fait un concept déclaratoire plus que de mis en œuvre. Et d'ailleurs, le Brexit peut aussi être interprété comme le refus d'une solidarité européenne par les Britanniques, qui étaient toujours dans un calcul très étroit de ce qu'ils gagnaient, ce qu'ils recevaient de l'Union, et donc qui une majorité du peuple qui a voté, de ceux qui ont voté en 2016, d'une certaine manière, a refusé de se mutualiser leur sort avec l'Europe. Et donc, c'était un déni de solidarité aussi très fort. Donc, il y avait cette blessure, cette triple blessure, je pense, comme vous l'avez dit, la blessure d'abord de ne pas avoir su faire preuve de davantage de solidarité avec les États qui étaient en grande difficulté financière, qui ont énormément souffert de la crise économique, on l'oublie, hein. Je veux dire, évidemment, si on est basé dans le nord de l'Europe, 2008-2009, finalement, à part une mutualisation ou une nationalisation de certaines banques, peu de choses sont passées, mais pour ceux qui ont vécu dans le sud de l'Europe, notamment en Grèce, la crise était absolument terrible. Et l'Europe du Nord a fait preuve de très peu de solidarité. Et la même chose depuis la crise des migrants, évidemment pour l'Espagne, pour l'Italie, pour la Grèce, la solidarité n'a pas été démontrée de manière très forte. Et donc ce troisième, lorsque ça arrive, cette Covid-19, c'est un petit peu pas la dernière chance, mais si dans une occasion pareille, aussi exceptionnelle que vous le décrivez en début de notre entretien, si dans ces conditions-là, rien ne change, il y avait vraiment un potentiel pour une crise fondamentale de l'Union européenne. Et heureusement, d'un certain côté, bien sûr, l'Europe a su trouver ses forces, comme vous le disiez, pour, disons, se répondre à ce défi formidable et pour essayer de se remettre sur un chemin, sur une voie plus en adéquation avec ses fondements et ses aspirations profondes.
Je crois maintenant qu'il faut mettre notre attention sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent, parce que tous ces changements dont on a parlé jusqu'à maintenant, qui sont des tournants dans la vie européenne, de vrais tournants. Je pense que ce qui est en train de se passer est comparable aux grands moments de l'histoire européenne, comme ce qui s'est passé autour de la chute du mur de Berlin ou comme ce qui s'est passé autour de la création de l'euro. De grands moments qui changent pour toujours l'histoire de l'Europe, l'histoire et la vie de nos peuples. Et évidemment, ce grand changement dont on a vu toutes les perspectives, la portée, la force, la positivité, et aussi la différence avec ce qui s'est passé il y a 10 ans ou dans d'autres crises pareilles, tout peut être gâché dans la phase de approbation ou de application. Je cite ce point-là parce que il faut être très très clair dans la compréhension du fait que nos opinions publiques aujourd'hui ont une approche vers l'Europe qui est une approche moins stable que celle qu'on était habitué à vivre dans le passé. C'est une approche qui touche beaucoup de pays, disons les pays les plus touchés dans cette approche instable, c'est naturellement l'Italie, la France, l'Espagne. On parle de pays dans lesquels la relation avec l'Europe et avec une Europe qui réagit positivement, qui décide, qui met ensemble, qui fait épreuve de solidarité, est une réaction qui est toujours très instable. Je pense à ce qui s'est passé entre mars et mai de cette année incroyable 2020. Au mois de mars, au tout début de la crise, la réaction européenne qui a eu des semaines au tout début de faiblesse, d'incertitude, a vu tout de suite une réaction de la part de quelques opinions publiques, je pense à l'opinion publique italienne, qui ont été des réactions très dures. L'euro-enthousiasme en Italie a perdu au moins 20 points, si je regarde les études de sondage d'opinion. Et on a vu une montée de haine vers l'Europe qui ne décidait pas, qui ne démontrait pas de solidarité, vers les pays européens voisins. La même chose, pas seulement en Italie, mais en Espagne, en France, aussi moins lourd, moins puissant, mais aussi très important. Au mois de mai, ça a été un peu la remontée, grâce au mai-juin, grâce au fait que les décisions européennes allaient dans la bonne direction. Mais c'est une remontée qui n'a pas comblé complètement la période de cet euroscepticisme montant qu'on a vécu. Donc, faire très attention. Il est suffisant que les pays européens ne trouvent pas un accord entre eux dans le Conseil européen ou dans les prochaines étapes que l'effet frustration va devenir le centre de tout. Et l'effet frustration est un effet aujourd'hui beaucoup plus lourd de ce qui s'était passé dans le passé il y a 10 ans, par exemple, ou dans d'autres crises, parce que cette fois-ci, dans quelques pays européens, il n'y a plus de marge d'erreur possible, il n'y a plus d'espace pour une erreur. Et évidemment, s'il y avait un moment aujourd'hui de difficulté qui faisait en sorte que toutes ces décisions dont on a parlé jusqu'à maintenant étaient bloquées, ou en retournaient en arrière, ou on passait à une phase trop longue et trop décalée d'application, alors je pense que cet effet frustration ferait des dégâts incroyables. Et j'ajoute que ces dégâts seraient aussi sur l'économie européenne, parce que on est en face d'une crise absolument incroyable pour laquelle il faut vraiment une réaction forte, immédiate, efficace, de l'argent, de la réaction qui puisse récupérer aussi ce manque de confiance qui fait en sorte aujourd'hui que la demande interne dans nos pays soit si faible que ça. On peut réouvrir toutes les usines que vous voulez, tous les magasins que vous voulez, mais c'est la demande est une demande dans laquelle on manque de demande externe, de tourisme, on manque de confiance dans la demande interne, à la fin le résultat reste désastreux. Et naturellement tout ça touche aussi la question de la implementation, de la façon dans laquelle toutes ces décisions vont être appliquées. Le timing, mais aussi la substance de comment ces choses vont être appliquées. Là, il faut faire très attention. Un décalage trop important entre des annonces fabuleuses de centaines de milliards d'euros et d'un futur plein d'argent, et le fait que les gens ne vont pas voir cet argent dans leur vie, ils vont voir au contraire les licenciements, la perte de travail, la perte de pouvoir d'achat, les difficultés qu'on va tous voir, alors là, ça va être un grand problème. C'est pour ça qu'il faut absolument que ces décisions soient prises, qu'elles soient naturellement bien communiquées, mais surtout qu'il n'y ait pas ce gap entre l'annonce et l'application. et qu'il y ait la possibilité d'appliquer tout ça d'une façon simple, efficace, rapide. Je mets l'accent sur ça. C'est toujours vrai dans la vie des gouvernements, des institutions. Cette fois, c'est encore plus vrai. La phase d'application est même plus importante que la phase de annonce et décision. Et c'est sur cette phase d'application et sur la rapidité de cette application que l'Europe joue son futur dans les prochains mois.
Absolument. Je ne peux que, une fois encore, abonder dans votre sens, monsieur l'État. Je dirais que, pour mettre aussi les choses en perspective, le changement d'attitude, la fin de la chute de popularité dans certains États que vous mentionnez par rapport à l'action de l'Union européenne, c'est un petit peu ralenti, à mon avis, lorsqu'il y a eu des actions concrètes, notamment de solidarité, lorsque des malades en état vraiment très grave ont été transférés d'un pays à l'autre, entre la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, pour vraiment donner un signal fort aux citoyens que l'Europe concrètement agit. Et je pense que c'était peut-être évidemment des gestes petits qu'on peut dire en termes de nombre de malades, mais qui étaient symboliquement très très forts parce qu'ils montraient que finalement on allait plus loin que les discours, c'est-à-dire qu'on sauvait des vies par une solidarité européenne. Mais évidemment, ça, ce n'était qu'un signal, un début d'un mouvement, et il faut maintenant en fait aller beaucoup plus loin. Et vous, comme vous le disiez, la grande difficulté auxquelles les États européens font face maintenant, ça va être la rapidité d'abord de se mettre d'accord sur cette enveloppe massive du plan de relance européen, dont on parle quand même maintenant depuis plus de 2 mois, on commençait à articuler cette idée déjà fin avril, et on rentre dans l'été, on est déjà dans l'été, on rentre un peu dans la torpeur estivale, et on sait vraiment pas si les choses vont être décidées normalement 17-18 juillet, mais si elles sont pas, elles vont encore un peu traîner en longueur, et donc ça risque de faire ressurgir les mouvements très forts anti-européens, ou en tout cas une indifférence, si c'est pas un rejet, c'est une indifférence notoire de l'action européenne, qui a été aussi, je dirais aussi, renforcée par la fermeture des frontières, cette attention énorme mise sur le national, beaucoup plus que sur l'européen. Vous pouviez vivre dans différents pays européens, les journaux télévisés ne parlaient que d'un pays, plus du tout d'Europe, ou très peu. On va pas retourner dans cette tendance-là effectivement l'action économique n'était pas mise en œuvre directement. Et dans cette perspective-là, les difficultés concrètement seront évidemment à partir de quand cet argent massif du plan de relance, qui est maintenant plus de 1 000 milliards d'euros, va être disponible. Et les indications récentes diraient que cet argent va être surtout disponible à partir de 2021-2022, ce qui effectivement serait catastrophique pour beaucoup de pays, notamment l'Italie, mais pas uniquement, qui a vraiment besoin de pouvoir avoir de l'argent frais, enfin des ressources fraîches tout de suite, puisque la crise va faire des dégâts majeurs, déjà en train de faire des dégâts, mais va être des dégâts encore plus majeurs dans la seconde partie de cette année 2020. Et donc là, toute la discussion de savoir à partir de quand ceci va être en fait disponible est crucial. De la même manière, la discussion n'est quand même pas tout à fait close sur une possible conditionnalité du recours au financement européen, et peut-être que pour convaincre les pays dits frugaux, enfin qui aiment la frugalité budgétaire, il faudra d'une certaine manière avoir un langage qui ne dit pas qu'il y a des conditions, mais qui espère que des réformes seront faites dans certains pays. Et si c'est ce chemin-là qu'on prend, il y a un risque majeur de rejet ou de réaction très forte, très virulente dans les populations concernées. Et on n'est pas très clair ce qui va se passer. Il y a l'espoir que cette conditionnalité de la conditionnalité n'est plus actuelle, mais elle n'est encore pas totalement enterrée, à mon avis. Et là, il y a un risque, comme vous disiez, majeur de non seulement gâcher cette opportunité de relancer, de remettre la solidarité et le projet européen vraiment dans sa plus grande profondeur, mais en fait d'être très, très contre-productif, de pire que si on n'avait rien annoncé. Et vous avez absolument raison de mettre en avant ce danger potentiel et cette urgence de passer tout de suite à la mise en œuvre, à des actions concrètes, pratiques, visibles par les citoyens des États membres, notamment ceux qui se trouvent dans les États le plus en difficulté et qui suite déjà à des promesses qui ont été faites ou des actes déclaratoires multiples dans les 10 dernières années, ce serait probablement un peu une fin, en tout cas assez longue, au rêve européen, et donc qui serait vraiment désastreux, d'autant plus désastreux, et que je rajouterais, que ça se passe dans un contexte géopolitique très particulier, là aussi dans une situation exceptionnelle depuis maintenant de nombreuses décennies, avec la puissance dominante, les États-Unis, qui sont quand même maintenant sur un déclin un peu accéléré, notamment dû aux décisions malheureuses de leur gouvernement, mais pas uniquement, c'est un aspect structurel, et une puissance qui est toujours plus montante ou qui va probablement devenir de plus en plus dominante, la Chine, et l'Europe se retrouve entre ces deux. Et ces deux-là ne se font pas vraiment de cadeaux, mais sont surtout obnubilés par l'un par l'autre et l'autre par l'un. Donc l'Europe est un peu aux abonnés absents dans leur discours, et il serait vraiment catastrophique pour l'Europe de ne pas, je voulais transformer l'essai, si on peut parler en termes de rugby, qui a été fait grâce à ces décisions, ou en tout cas ces premières décisions en matière de relance économique. Et donc vraiment urgent que l'Europe agisse vite et avec des mesures concrètes pour ses citoyens, au risque sinon de se retrouver dans une crise vraiment existentielle très très profonde.
Bien, ça me paraît une conclusion parfaite, Monsieur Dupont. Je vous remercie beaucoup.
Merci, Monsieur Letta.
Nous étions avec Enrico Letta et Cédric Dupont pour une discussion sur les enjeux économiques et institutionnels suite à la crise du Covid-19 en Europe. Pour plus d'informations au sujet de l'Institut de Haute Études Internationales et du Développement, nous vous invitons à vous rendre sur graduateinstitute.ch. Je suis Léna Mengué, merci pour votre écoute.